Voilà, bonjour à tous. Alors, bonjour à ceux que j'ai pas salués, parce que je vois qu'il y a même il y a des nouveaux visages. Alors soyez bienvenus parmi nous. Alors, merci pour la louange, merci Silvio pour ce dernier chant, qui moi personnellement a fait beaucoup de bien. Donc voilà, alors sans plus tarder, ben, je pense qu'il est de rigueur, on va ouvrir la Bible, si vous le voulez bien. Alors est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Alors je regarde un petit peu, hein, je vois quelques Bibles qui se lèvent, je vois quelques portables aussi qui se lèvent. Vous savez, avec les jeunes, on fait les réunions là un samedi sur deux. Et quand je demande s'ils ont les Bibles, direct, eux, c'est le portable qui sort. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, je leur dis, bah, écoutez, on va aller derrière, on va prendre quelques Bibles en papier. Et c'est quand même bien de chercher les versets dans la Bible, c'est beaucoup mieux. Alors après, le portable, c'est bien, parce que moi, je m'en sers aussi, vous savez, pour retrouver des versets rapidement. Des fois, on a juste un mot, on se rappelle plus trop la référence. Alors, tac, on prend le portable, c'est pas mal, hein. Et on retrouve le verset rapidement. Bon, c'est pas le sujet de ce matin. Ouais, on n'est pas là pour parler de portable, d'application. En fait, ce que nous allons faire, nous allons ouvrir nos Bibles, ou alors vous allez ouvrir peut-être votre application, je ne sais pas, mais on va regarder dans le dernier livre de la Bible, et au second chapitre. Donc vous savez c'est lequel? C'est l'Apocalypse. Donc Apocalypse 2, et nous allons lire les versets 1 à 4. Alors, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point laissé, lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors rassurez-vous, là, la Jean ne s'adresse pas à l'église du Rouquier, mais à l'époque, il s'adressait à l'église d'Éphèse. On l'a lu au premier verset. Donc Jean a un message, vous savez, pour les sept églises d'Asie. Et là, c'est sa première lettre. C'est la première lettre qu'il va faire à la première église, c'est l'église d'Éphèse. Alors nous connaissons bien l'église d'Éphèse. Déjà dans les premiers versets que nous venons de lire, parce que je pense quand même qu'elle est assez bien décrite dans les premiers versets. Hein. Et je pense qu'elle ne faisait pas partie de l'église, vous savez, où le Seigneur dira « arrière, arrière ». Je ne vous ai jamais connu. Non, le Seigneur connaît bien cette église. Si on peut relire ce qu'il dit au premier verset, c'est « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Le Seigneur, il connaît bien l'église et l'église, quand on l'a décrit, moi je la trouve belle, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est quand même une belle église. Il dit, je connais tes œuvres et ta persévérance, dit le Seigneur. Une assemblée, je pense, qui persévérait dans la prière. Elle devait persévérer dans le jeûne, malgré la souffrance à cause du nom de Jésus. Elle n'a jamais abandonné, elle ne s'est jamais lassée. Elle avait même du discernement pour les imposteurs, pour les personnes qui se disent apôtres, pour les loups qui sont peut-être habillés en vêtements de brebis. Cela veut dire, je pense, que l'église d'Éphèse, ben, elle devait s'attarder dans les Écritures. Je pense qu'on ne pouvait pas la berner avec de faux enseignements ou une fausse doctrine. Elle avait, on le voit tout de suite, de bons fondements qui étaient fondés sur le roc et non sur le sable. Et on peut le voir déjà même au début, dans l'épître aux Éphésiens, vous savez, de l'apôtre Paul. Regardons ce que leur dit l'apôtre Paul au premier chapitre, et au verset 15 à 17. Éphésiens 1, 15 à 17, l'apôtre Paul dit à l'Église, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » L'apôtre Paul prie pour que l'Église d'Éphèse grandisse. Alors pas seulement en nombre, mais il voyait déjà sa foi, donc il voulait qu'elle grandisse encore dans la foi. Il voyait son amour, déjà pour les autres, mais il voulait qu'elle grandisse aussi dans l'amour. Il voyait la sagesse qu'elle avait, la révélation, mais il voulait encore qu'elle grandisse plus. Alors nous avons là une belle église, avec de bons fondements, et de vraiment de belles œuvres. J'ai l'impression, parfois, quand on décrit l'église d'Éphèse, on décrit peut-être un petit peu l'église de Istres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais toutes les églises, je pense, devraient ressembler à l'église d'Éphèse. Et l'apôtre Paul désire également que chaque chrétien de cette église, et chaque chrétien même pour nous ce matin, qu'on puisse mener une vie digne. Et on peut le lire dans Éphésiens 4 et les versets 1 et 2. Éphésiens 4, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, et on peut dire avec amour. Alors Paul ne parle pas aux Éphésiens comme il parle aux Corinthiens. Donc on connaît tous l'église de Corinthe, on savait que les 9 dons étaient pratiqués là-bas, mais on sait aussi qu'ils avaient de drôles de pratiques et qu'ils avaient des mœurs un petit peu particulières. Donc on voit bien que les dons, ben c'est Dieu qui les distribue, comme il veut. Mais l'église d'Éphèse, si on compare avec celle de Corinthe, ben c'est peut-être un petit peu, on peut dire, l'église modèle, qui avait de bonnes mœurs, de bonnes pratiques, qui avait un amour pour le Seigneur, un cœur pour l'évangélisation, car l'église, on la voit grandir rapidement, en nombre et aussi on la voyait grandir en stature. Donc l'apôtre Paul les exhorte vraiment à grandir encore plus dans le Seigneur. Au chapitre 2, Paul va quand même leur faire une petite piqûre de rappel. Je pense qu'il est bon de savoir d'où on vient pour bien aller vraiment où on veut aller. C'est bien de se rappeler d'où on vient. Et par la même occasion, peut-être que le Seigneur ce matin nous fait également un petit rappel à chacun de nous. Donc lisons ensemble. Nous allons lire, alors pas le passage en entier, alors j'ai pris quelques versets. C'est au début du chapitre 2, on va lire le verset 1 et 2, le verset 4 et le verset 6. Donc Éphésiens 2, de 1 à 2. Regardons ce que l'apôtre Paul rappelle aux Éphésiens, il nous rappelle à nous ce matin. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, et un petit peu plus bas, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors les chrétiens d'Éphèse étaient de véritables chrétiens. Ils étaient vraiment convertis avec un feu brûlant pour le Seigneur. Alors en préparant le message, j'ai fait un petit retour en arrière, pour moi personnellement. Vous savez, ça fait pas si longtemps que ça que je suis converti. Alors je sais que pour la majorité, qui êtes là présent ce matin, vous me connaissez. Mais j'aimerais ce matin aussi m'adresser également à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, peut-être, ou très peu. Et peut-être ceux qui me connaissent moins. Ça pourrait peut-être les encourager. Ceux qui sont dans une démarche, peut-être une volonté aussi ce matin de s'approcher un petit peu plus de Dieu. Donc moi j'ai grandi dans une famille catholique qui était bien ancrée dans les traditions, parce que j'ai fait mes 3 communions. Donc j'ai grandi, j'ai été enfant de cœur, je servais le dimanche, là je faisais la cloche quand le curé il relevait l'hostie ou la coupe de vin. Ah non, j'étais bien ancré dans mes traditions. J'avais de bons fondements traditionnels de l'église catholique, ça c'est sûr. Et un petit peu plus tard, j'ai été déçu par un curé, par une petite parole, parce que j'allais tous les mercredis à confesse. Et j'avais dit, oui, voilà, j'ai fait ça, j'ai menti, je me suis énervé après mes parents. Il m'a dit, oh, mais ça, Philippe, c'est pas péché, ça, tout le monde le fait. Il m'a dit, oh, si ça te fait plaisir, ben dis ça. Et moi, ça m'a interpellé, je dis quand même, dans mon cœur, je dis, c'est pas bien ce que je fais. Et lui, il dit, c'est pas péché, parce que tout le monde le fait. Et ça a été peut-être la bonne excuse. Je suis parti, parce que j'ai arrivé à l'âge de 18 ans, et je dis, tiens, c'est bien aussi, il y a des filles, il y a les copains, les sorties, ça va être bien. Hein. Mais j'avais quand même toujours dans mon cœur Dieu. Et ce que j'ai quand même recherché Dieu, mais à travers peut-être toutes les religions. Mais aucune m'a vraiment interpellé. Et un matin, dans un chantier, j'ai acheté un Nouveau Testament. J'ai ouvert le premier livre de Matthieu et j'ai passé la semaine à lire. Et j'ai lu en quelques jours le Nouveau Testament. J'ai été bouleversé. Et là, j'ai eu un zèle pour le Seigneur, mais incroyable. J'ai été bouleversé. Là, il fallait que je parle de Dieu à tout le monde. Alors je pense que parmi nous, ce matin, il y a des personnes qui sont au Seigneur de bien plus longtemps que moi. Parce que moi, ça fait 10 ans à peu près que j'ai lu l'Évangile et que le Seigneur m'a interpellé. Et j'ai envie de dire, même si cela ne fait pas si longtemps que ça que je suis au Seigneur, on le voit avec l'église d'Éphèse, qu'il ne faut pas très longtemps pour s'éloigner un peu du Seigneur. Parce que vous savez combien de temps sépare l'épître aux Éphésiens de l'Apocalypse ? Alors l'épître aux Éphésiens, il a été écrit à peu près en 60-65, il est daté, et l'Apocalypse 90-95. Donc c'est 30 ans. Il y a 30 ans d'écart entre l'église qu'on voit, qui a un feu, un zèle pour le Seigneur, et ensuite ce que l'ange va dire à Jean. Alors, sans trop m'avancer, je pense que ce matin, il y a pas mal de personnes qui connaissent le Seigneur depuis plus de 30 ans. Est-ce que je me trompe ? Non, je pense qu'il y en a pas mal hein, qui connaissent le Seigneur depuis plus de 30 ans. Alors maintenant, je vous ouvre un petit peu mon cœur. Je pense que si le Seigneur avait peut-être un petit reproche à me faire ce matin, ce serait peut-être celui-là. Apocalypse 2 et le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et si on devait donner un titre au message, ça serait peut-être celui-là. La flamme du premier amour. Alors, ce n'est pas la flamme olympique, hein, même si on est en plein JO. C'est la flamme du premier amour. Et toi, mon frère, ma sœur, qu'en est-il de la flamme de ton premier amour ? Si je te pose la question ce matin, qu'en est-il de cette flamme ? Qu'en est-il du feu qui brûlait au début de ta conversion ? Alors moi, personnellement, j'ai grandi dans la connaissance. Quand j'ai été interpellé par le Seigneur, j'avais du zèle pour lui, j'ai grandi dans la connaissance, j'ai vraiment changé ma manière de vivre. Comme vous le savez, nous sommes engagés avec mon épouse, hein, mes filles, moi-même, dans le service pour Dieu. Parce qu'un verset que j'aimais beaucoup, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ça, je l'ai eu vraiment au début de ma conversion. Et par sa grâce, ben, nous essayons de le servir du mieux que possible. Hein. Mais la marche est encore longue, mais on reste attaché à lui, dans le service. Mais qu'en est-il du début de ma conversion ? Et toi, mon frère, ma sœur ? Qu'en est-il du début de ta conversion ? Si je fais un arrêt sur image et que je compare mon début de ma conversion à aujourd'hui, ben, il y a quelques petits changements. Alors je ne sais pas vous, mais moi il y a des changements. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai lu le Nouveau Testament en quelques jours. Est-ce que maintenant je m'attarde 3-4 jours à lire la Bible ? Pour lire en quelques jours, je lisais 7-8 heures la Bible dans la journée. Hein. C'était ma journée de travail. Je ne travaillais pas, je faisais que lire. Mais est-ce que je le fais encore ça ? Je me levais la nuit pour prier. Mais ça ne durait pas 5 minutes. Je m'isolais, j'allais dans ma cuisine et je priais. Des fois, ça durait des heures. Mais si je fais un petit arrêt, est-ce que je le fais encore ? Je le fais beaucoup moins. Je passais mon temps à parler de Dieu. La moindre occasion était bonne. Tout le temps, tout le temps. Quand nous étions invités quelque part, alors Mélanie elle me disait « Attention, Philippe, là, on est invité chez des personnes. Tu sais, elles ne sont pas converties. Et toi, je sais que tu as le feu pour Dieu et tout. Mais bon, il faut être sage quand même, on ne peut pas. » Et une fois, on est allé même chez un cousin, elle, qui est converti à l'islam. Elle m'a dit « Là, Philippe, tu ne peux pas parler de Dieu, là. Là, ils sont musulmans, sa femme est engagée aussi, elle a le voile et tout, non, tu ne peux pas. » Et moi, j'ai dit « Écoute, alors ce que je peux te promettre, c'est que je ne vais pas être le premier à engager la conversation, mais à la moindre faille, c'est sûr, je vais me glisser et je vais parler de Dieu. Ce n'est pas possible, je ne peux pas faire autrement. Et je ne pouvais pas faire autrement, que j'étais obligé de parler de Dieu tout le temps. » Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, si toi aussi, tu faisais un petit arrêt sur image, qu'en est-il de ton premier amour ? Qu'en est-il du début de ta conversion ? Combien de temps consacres-tu à Dieu chaque jour dans la prière ? Est-ce autant qu'au début de ta relation ? Alors avoir une bonne doctrine, obéir aux commandements de Dieu, venir aux réunions, louer Dieu, comme on l'a fait ce matin, prier, intercéder pour les malades, c'est ce qu'on fait les mardis. Évangéliser, c'est ce qu'on a fait aussi avec la flamme olympique. On est sorti dehors, l'église qui était engagée, on a distribué plus de 500 évangiles, c'est super. Lire la Bible, ben ça j'ai envie de vous dire, c'est juste la base de la vie chrétienne. En fait, c'est normal. Quand nous avançons avec le Seigneur, toutes ces choses, eh ben, elles deviennent normales et on aime faire cela. C'est simplement, j'ai envie de dire, l'expression de notre conversion et de notre engagement pour le Seigneur. Et tout cela, ben, je pense, chacun qui est grandissant avec le Seigneur, nous le faisons bien mieux qu'au début. Moi, je le fais bien mieux qu'au début. Hein. C'est vrai que j'arrive mieux à parler du Seigneur. Je suis plus sage quand je parle du Seigneur. Dans mes prières aussi, elles sont quand même plus posées. Mon fondement est meilleur, puisque j'ai étudié la Bible, je lis beaucoup, j'ai lu, maintenant j'ai pas lu que le Nouveau Testament, hein, j'ai lu la Bible en entier. Donc j'ai un meilleur fondement, mais j'ai envie de vous dire, j'ai envie de me dire, cela ne suffit pas. Parce que nous devons, en plus d'avoir un bon fondement, un amour profond pour Jésus-Christ et sa parole. Il doit y avoir aucun compromis dans notre vie de chaque jour. Quand nous sommes mariés, le matin avant le mariage, il y a un ami, un frère de l'église qui m'a dit, Ah, c'est bon, Philippe, il m'a appelé, c'est bon, t'es prêt, tout est prêt, tout ça, mais je vais te poser une question. Est-ce que tu es prêt à dire oui à Mélanie? Bon, j'ai dit, mais quelle question il me pose, lui? Ben, j'ai dit, évidemment que je suis prêt à dire oui à Mélanie, il n'y a aucun problème. Je suis plus que prêt, même, j'ai envie de dire. De dire oui à Mélanie. J'ai envie de dire oui devant les hommes et surtout, j'ai envie de dire oui devant Dieu. Ah, j'étais fier. J'étais posé quand j'ai dit ça avec assurance. Hein. Et lui, il m'a dit une chose que je pourrais jamais oublier. Et je vais vous le dire. Il m'a dit, tu sais, Philippe, quand tu dis oui à ta femme, eh bien, tu dis non à toutes les autres. Waouh, ça m'a fait un choc, je n'avais pas pensé. Oui, effectivement, on dit oui à sa femme, on dit non à toutes les autres femmes. Hein. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Quand nous nous sommes engagés avec lui, quand nous avons dit oui au Seigneur, quand nous avons dit oui, Seigneur, j'accepte que tu sois mon Sauveur et mon Seigneur, j'ai envie de dire, quand on dit oui à Dieu, eh bien, on dit non au monde. Tout ce qui est du monde, on est obligé de dire non au monde. Alors on ne peut plus vivre de la même manière. C'est plus possible quand nous rencontrons le Seigneur. Il y a un avant et un après. Vous savez, comme dans les livres d'histoire, pour n'importe quel livre d'histoire, il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et dans la vie du chrétien, c'est pareil. Il y a un avant Jésus-Christ, la rencontre avec le Seigneur et un après. C'est obligé, il y a un changement. Dans la vie de chaque chrétien, ça doit être pareil. Quand on a dit oui au Seigneur, on dit non aux choses du monde. Colossiens 8, au chapitre 3 et le verset 8 à 10 nous le rappellent. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez plus les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Jean avait un message à l'église d'Éphèse qui lui disait que ce que le Seigneur avait contre elle, ce n'était pas son comportement en général. On a peut-être tous un très bon comportement aussi, vis-à-vis des autres. Peut-être qu'on a un bel habit de chrétien. Son comportement était irréprochable. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était des chrétiens modèles. Et nous sommes peut-être aussi des chrétiens modèles, hein. Mais c'est son amour pour le Seigneur. Cette flamme, c'est ce zèle du début qui s'était un petit peu étiolé. C'est ça que le Seigneur avait à leur reprocher. Alors ce matin, je nous pose à nous cette question, peut-être en quelque cas particulier aussi ce matin. Ton amour pour le Seigneur, ton zèle du début de ta conversion, est-ce qu'ils sont de la même intensité? Quand tu as dit oui à Jésus, est-ce que tu as toujours été fidèle? On l'a lu dans Colossiens, plus d'animosité, plus de colère, de l'amour pour les autres. Quand tu as dit oui à Jésus, est-ce que tu as dit non au monde et à toutes ses convoitises? Le Seigneur a dit dans sa parole, dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et au verset 21, Jean 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Gardes-tu les commandements de Dieu? Tous. Et surtout celui qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, ça veut dire, c'est celui qui est proche. Peut-être pas proche, mais de manière physique, proche. Ça veut dire quand on te coupe la route en conduisant, est-ce que tu as de l'amour pour celui qui t'a coupé la route? Parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui est le plus proche. Au travail, un collègue de travail qui te contrarie, à ce moment-là, à l'instant T, c'est lui le plus proche. S'il te fait une réflexion, est-ce que tu as de l'amour pour lui? Vous savez, quand on aime une personne, eh bien, on aime lui faire plaisir. Ça, c'est normal. C'est l'amour qui s'exprime. Faisons-nous plaisir à Dieu chaque jour, dans nos agissements, dans notre comportement au quotidien. Est-ce que nous faisons plaisir à Dieu? Alors attention, je ne juge personne, puisque je dis nous, hein, je m'inclus, hein, dans les questions. Hein. Vous savez, comme un jeune couple qui vient de se rencontrer, alors je ne sais pas comment c'était vous, mais je pense qu'on fonctionne tous de la même manière en général. Hein. La seule chose qu'on désire, c'est d'être ensemble, tout le temps. Ils ne peuvent pas rester 5 minutes l'un sans l'autre. Alors moi, en tout cas, c'était mon cas. Tout mon temps libre, ben, je voulais le passer avec Mélanie. Et ce matin, qu'en est-il du désir de passer du temps avec le Seigneur? Si je te pose la question, qu'en est-il? Tes temps d'intimité avec lui sont-ils aussi nombreux qu'au début de ta relation avec lui? Vous savez, le Dieu que nous aimons n'est pas un Dieu d'une religion. Moi, j'ai connu la religion quand j'étais catholique. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était plus une religion. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de religion, mais que j'avais besoin d'une relation avec notre Dieu créateur et d'une véritable relation. Alors j'ai envie de dire ce matin, prenons soin de cette relation. Ne négligeons pas la relation que nous avons eue avec le Seigneur. Quand nous l'avons rencontré au début, quand il est venu nous chercher, parce que c'est lui qui nous cherchait, il a établi cette relation et nous devons en prendre soin. Nous ne devons pas la négliger. Alors malheureusement, vous savez qu'il arrive que des couples se séparent. C'est même un sujet récurrent. Les mardis soirs, souvent on prie pour les couples en difficulté, les familles en difficulté, les couples qui se déchirent. Vous savez, le diable connaît la force d'une famille, d'un couple uni dans le Seigneur. Un mari et une femme, vous savez, qui prient ensemble, j'ai pas peur de le dire, ça peut déplacer les montagnes, sans problème. La parole de Dieu dit quand deux s'accordent à demander quelque chose, cette chose est déjà accordée. Alors imaginez si c'est un couple. Matthieu 18, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alors vous savez, le diable, il ne va pas rester les bras croisés. Hein. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer les couples directement pour détruire les familles. Alors c'est souvent les mêmes raisons. Si on écoute, hein, on discute, parce qu'on a toujours des proches, on a des amis quelconques, on sait qu'il y a tellement de couples qui se séparent. Donc en général, c'est souvent la même raison. Ouais, mais tu comprends, il est comme ci, mais tu comprends, elle est comme ça. Alors c'est vrai que si on cherche bien, ben, on va trouver beaucoup de défauts chez les autres. Bon, des fois, on n'a pas besoin de chercher beaucoup. Les défauts, ils sont là, ils sont flagrants. Alors l'un des deux, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il se dit, ben, tiens, je vais peut-être voir si l'herbe à côté, elle n'est pas plus verte. Mais est-ce que vous savez à quel endroit l'herbe est la plus verte? Si je vous pose la question. Eh oui, Joël, tu as raison. L'herbe est la plus verte, tout simplement là où on l'arrose. C'est là qu'elle est la plus verte. Alors ce matin, prenons soin de notre relation avec Dieu, afin de garder la flamme de notre premier amour. Gardons l'herbe verte de notre relation avec Dieu. Et pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Mais prenons soin de l'arroser. Arrosons. Et avec quoi? Arrosons notre relation avec Dieu, avec des temps d'intimité. Arrosons notre relation avec Dieu, avec des temps de louange. Arrosons notre relation en passant du temps dans la prière, dans le secret de notre chambre. Arrosons notre relation avec Dieu, mais par des temps de lecture et de méditation de sa parole. Ça marche bien, ça arrose bien. C'est même de l'engrais quand on médite la parole. Arrosons notre relation avec des temps de jeûne et de prière. Prenons soin de notre relation avec Dieu, tout simplement pour ne pas que la flamme du premier amour s'étiole, en ayant des temps de qualité avec Dieu. Cherchons à être dans sa présence, tout le temps, comme au début de notre conversion. Refaisons grandir cette flamme du premier amour. Soyons comme l'église d'Éphèse, en conduite, ça c'est sûr, c'est un bon exemple à suivre, parce qu'elle avait une bonne conduite, une bonne doctrine, des bons fondements, mais par contre elle n'a pas pris soin de la flamme de son premier amour. Et j'ai envie de dire que manque de bois, le feu s'éteint. C'est le livre des Proverbes qui nous dit ça. Alors comment faire pour garder cette flamme allumée? Alors on l'a vu déjà, hein, en prenant soin de notre relation avec Dieu, mais ce qu'on peut faire c'est aussi garder cette flamme allumée, en alimentant le feu de notre relation avec Dieu. Comment pouvons-nous faire cela? Quels sont les combustibles que nous pouvons utiliser pour alimenter, pour faire vivre cette flamme du premier amour? Que pouvons-nous lui donner comme combustible? Qu'est-ce qui peut bien brûler pour Dieu? Qu'est-ce qui brûle pour Dieu? Qu'est-ce qui brûle bien? Quel est un bon combustible? Ben déjà, j'ai envie de vous dire ce matin, et peut-être à quelqu'un en particulier, déjà notre cœur en entier. Pas qu'un petit bout, pas qu'une partie. Donnons notre cœur entier au Seigneur. Donnons-lui tout notre amour. Deutéronome 6, et le verset 5 nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ensuite, la confiance en Dieu. Ça, je vous dis, c'est un très bon combustible. Quand on a confiance en lui. On l'a entendu dans un don ce matin. Ne pas s'inquiéter parce que le Seigneur pourvoit. Ça, c'est la confiance. Il faut vraiment qu'on ait confiance en Dieu. Psaume 37 et le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors, je ne vais pas être long ce matin. Je vais terminer dans pas longtemps. Mais j'aimerais terminer avec un dernier passage de la Bible qui, à mon sens, là, va nous donner le meilleur des combustibles pour pouvoir garder notre flamme allumée, comme au début de notre relation, avec la foi, la confiance et l'amour pour Dieu. Lisons ensemble Romains 12 et le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci pour ta parole. Merci encore, Seigneur, c'est vrai. Pour ces bons fondements sur lesquels nous devons rester appuyés, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à garder cette flamme, ce zèle, Seigneur, du premier amour que nous envions quand tu es venu nous chercher, Seigneur mon Dieu. Je veux te louer et te dire merci encore pour ce que tu as fait, Seigneur, dans ma vie personnellement. Mais permets-moi, Seigneur, c'est vrai, de grandir en stature, Seigneur mon Dieu, à sainteté, à rester accroché à toi chaque instant, à chaque moment. Viens te glorifier, Seigneur, dans chaque partie de ma vie, Seigneur mon Dieu, que je puisse, Seigneur, être digne de toi. Merci, Seigneur, vraiment de grandir, de me faire grandir, Seigneur, que je puisse diminuer et que toi, Seigneur, à la place, tu puisses grandir en moi. Et que toute ma vie, Seigneur, soit faite pour la seule gloire de ton nom. Amen.